Quand je te regarde, c'est une souffrance.
Pourtant, hier, tu disais que c'était une joie.
C'est une joie et une souffrance.
Face à ce micro, j'ai l'impression d'être ton Claire Roosevelt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le troisième épisode des podcasts de la Horde pour le compte des éditions du Nouvel Attila. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Milly Duyer, l'autrice de Cabane, un roman publié le 4 mars 2022 au Nouvel Attila, bien sûr. Un premier roman qui aborde avec beaucoup de poésie les mouvements de la vie en suivant l'image d'une cabane, évoluant au fur et à mesure des chapitres pour accompagner les étapes de la vie de la narratrice. Un entretien réalisé au coin d'un canapé, un chat sur les genoux, un thé à la main qui saura vous plaire si vous tendez l'oreille.
Vous écoutez la deuxième partie de la rencontre, nous vous souhaitons une bonne écoute, à tout à l'heure. D'abord, j'aimerais commencer cette interview en parlant avec toi du rapport à l'océan, à la mer que le personnage longe tout au long du roman.
Je crois que la mer, elle faisait beaucoup partie de mon imaginaire, parce que j'ai eu la chance d'aller souvent à la mer, de par mes origines grecques, et de prendre souvent le bateau aussi. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fait très peur, la mer, parce que c'est l'immensité. Et donc je me disais quand j'étais petite, pourvu que je meure pas noyée dans la mer, parce que, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mon corps, quoi. Et du coup, il y a quelque chose, la mer, il y a quelque chose de l'ordre de l'inconnu et de l'incontrôlable. Parce que je pense qu'en fait, c'est quelque chose que les humains ne peuvent pas contrôler. Enfin, l'homme n'a pas de prise sur la mer. Ou alors, à la limite, les dieux ont une prise sur la mer. Et il y a quelque chose, pour la narratrice, de l'ordre du regard qu'elle porte sur le monde avec la mer, à mon avis. Parce que le monde, c'est quelque chose qui lui échappe. C'est quelque chose qui lui fait peur. C'est quelque chose qui est inconnu. Et donc, je pense que cette idée du bateau sur la mer, ça reprenait un peu, pour moi, l'idée du petit monde de la narratrice qui va se débattre dans un autre grand monde immense qui déborde et sur lequel elle n'a pas de prise. Donc je pense que ça vient de là. Ça me paraissait une belle image. Et puis plus tard, mais ça c'était vraiment après avoir écrit le livre, on m'a offert La Tempête, mais je l'ai là en plus, je crois. La Tempête de Ponty, enfin le livre pour enfants. Avec des rats un peu moches.
De Claude Ponty.
Okay, ouais. Et il y a une tempête comme ça, et leur maison, elle est inondée. Et en fait, leur maison, elle fout le camp, et il reste plus rien. Ils s'accrochent à leur porte-manteau, ou aux uns aux autres. Et je sais pas, je trouve que dans la mer, ça me raconte ça. Plus qu'autre chose, de quelque chose qui déborde et sur quoi on n'a pas prise. Et donc ça reprend beaucoup de choses qu'on retrouve dans le roman, à savoir les aspects du monde qui viennent parasiter la vie bien arrêtée, bien dessinée de la narratrice dans sa cabane, qui vont parasiter sa maison, et ça va reprendre aussi les sentiments, choses sur lesquelles on n'a pas de prise, l'amour aussi, qui déborde et qui va où l'eau va s'infiltrer dans la maison et on n'aura plus de prise sur cette maison inondée.
Et c'est marrant parce que au début du roman, donc ton personnage, ta narratrice, elle a l'âge d'un enfant, une jeune enfant, et le rapport à la mer, justement, il évolue au fur et à mesure du roman, et au fur et à mesure que la narratrice grandit, change et vit sa vie. Et en fait, le rapport à la mer, il passe d'un rapport un peu enfantin, un peu joyeux à l'exploration, à l'amusement, au jeu, etc. Et à la fin, il finit, le champ lexical change un peu, et puis tu parles beaucoup du naufrage, de maintenir le cap, de tenir la barre, etc. Est-ce que tu crois que c'est une vision de l'océan qui a changé en parallèle avec toi au fur et à mesure de ta vie? Tu avais un point de vue plutôt amusant au départ de la mer, et maintenant ça te terrifie, ou c'est vraiment la narratrice et ton personnage qui le vit comme ça?
Je pense que c'est la narratrice, mais c'est aussi ma vision à moi, mais plus qu'une vision par rapport à la mer qui a évolué, je pense que c'est une vision par rapport au monde imaginaire. C'est-à-dire que dans l'enfance, pour la narratrice, construire des cabanes, c'est très concret, pragmatiquement, dans la partie de l'enfance, en tout cas du roman, quand la narratrice construit une cabane, on a vraiment le récit d'une construction de cabane. quand elle atteint les 20, 25, 30 ans, ça devient quand même plus délicat de construire une cabane sans passer pour un fou furieux ou un gamin attardé, même si on le fait, hein, on peut se le dire, mais on le fait peut-être moins. Et le rapport au monde imaginaire, il est aussi plus délicat. Le regard, en grandissant, il est forcément plus cynique, peut-être un peu moins porté sur le rêve, ou en tout cas, du moins, il y a moins de croyance au pouvoir du monde imaginaire sur le monde réel et à son influence. Et donc, quand la narratrice est enfant, ce monde imaginaire, il est réel, il existe pour elle, il existe vraiment. Et donc, la force de ce monde imaginaire, elle est vraiment là, quoi. Et elle lui permet vraiment, d'ailleurs, d'échapper à des aspects du monde réel qui l'angoissent. Là où en grandissant, peut-être parce que le monde réel s'est trop immiscé dans le monde imaginaire ou l'a trop mise à mal, mais elle y croit moins, je pense. Et donc elle doute de sa capacité à sortir héroïne de ses histoires imaginaires et elle se voit de plus en plus comme malmenée par les assauts du réel. C'est le cynisme, en fait.
Ah oui, qui est représenté par l'inondation de l'océan.
Ouais, et puis par la peur, parce que non, je crois que c'est au tout début, d'ailleurs c'est dans le premier chapitre qui parle de la mère dans le volet de l'enfance. Elle dit quelque chose comme on a peur, mais on sait qu'on ne mourra pas tout de suite parce qu'on est les héros du film. Et c'est vrai, il y a cette certitude quand on regarde un film, on sait que, Bruce Willis, il va pas mourir. On sait que son ami... il va probablement, son ami sympa qu'on a rencontré à la 6e minute, il va probablement mourir à la 8e, mais lui on sait qu'il va pas mourir, donc à chaque fois qu'on est dans le film et qu'il frôle la mort, en fait on est serein sur notre canapé parce qu'on se dit mais il va pas mourir, c'est Bruce Willis, on est dans Die Hard et tout va bien, et on a cette certitude là enfant quand on joue, et je pense qu'on l'a moins en grandissant. C'est pas pour rien qu'en grandissant on se dit qu'on va mourir d'amour, même si je pense pas qu'on meurt d'amour, enfin peut-être.
Y a un moment où tu dis on construit son bateau et on construit son naufrage. C'est une phrase qui m'a vachement plu et que je trouve très belle, parce qu'il y a vraiment cette opposition là entre le moment de la construction de cette espèce de petit radeau qu'on va explorer ensemble, construire, bâtir, avancer, et le naufrage que tu penses construire aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut anticiper, qu'on peut voir venir, et parce qu'un naufrage, c'est pas immédiat, il y a quelque chose d'un peu lent et de visuellement, quelque chose qui s'enfonce dans des profondeurs, etc. Et je trouve ça beau, parce que c'est vraiment une phrase qui remonte et puis qui redescend. Et donc je voulais savoir quel bateau on construit. Et de quel naufrage la narratrice parle à ce moment-là ? Est-ce que c'est seulement un naufrage amoureux, ou est-ce que c'était un naufrage un peu plus profond ? Est-ce qu'il y a des survivants même ?
Oui, alors il y a plusieurs naufrages. Il y a le naufrage de l'amour, du couple en tout cas, comme structure qui fonctionne et qui se construit, ça c'est sûr, parce que... Enfin, en tout cas, dans cette histoire-là, mais j'imagine même... Enfin, j'imagine pas qu'un couple puisse pas se construire. Enfin, je pense qu'une relation, elle se construit toujours. Et la narratrice, elle a vraiment ce rapport au... Comment dire ? Elle a ce rapport à tout assez angoissé et maniaque. Elle a besoin de construire les choses. Enfin, constamment, elle est très organisée. Et donc, elle met beaucoup de soin dans ses relations. Quand elle les construit, elle les construit comme elle bâtit une maison. Et elle va construire ce couple comme elle bâtit une maison. Et elle construit ce naufrage parce que, en fait, je pense qu'elle le voit venir et que, ayant besoin de sortir de cette maison-là, elle ne voit pas d'autre moyen. Plutôt que de construire sa maison autrement parce qu'elle n'y est pas à l'aise, elle va y foutre le feu. Et en fait, elle fait constamment ça, puisqu'en fait, chaque chapitre est une nouvelle cabane qu'elle construit. Et si elle en construit une nouvelle, c'est parce que la précédente s'est cassée la gueule. Ou parce qu'elle l'a détruite, parce qu'elle évoluait plus agréablement dedans. Et donc, alors il y a deux dimensions, il y a le naufrage du couple qu'on construit, parce qu'en fait on choisit à un moment donné de plus trop écouter l'autre. Enfin, je veux dire, il y a ce moment, il y a le début de l'amour, où en fait tout ce que l'autre dit, c'est une source d'épanouissement, mais on a l'impression de lire le meilleur bouquin de notre vie, et alors on est tellement curieux et avide de l'autre, et puis il y a un moment, ou pas, mais en tout cas, si on va vers le naufrage, il y a quand même un moment où l'autre, il est là, il parle, Et en fait, c'est devenu le bruit de fond de la radio de pendant qu'on fait la vaisselle. Et puis même parfois, on a juste envie qu'ils se taisent. Et parfois, on a l'impression que c'est pas juste la radio qu'on écoute, mais c'est Zemmour à la radio. Enfin, j'en sais rien, mais c'est, la vie ensemble, c'est quand même très compliqué. Et en fait, comme les gens évoluent dans un couple, en tout cas, si on imagine un duo, évoluent chacun aussi forcément de leur côté, même s'ils ont toujours cette illusion qu'ils évoluent en une seule entité de couple. Et bien, il y a forcément...
Avec chacun leur cabane, en plus.
C'est ça, avec chacun leur cabane. Comment ils font pour faire en sorte que chacun, leur cabane existe, mais qu'en même temps, il puisse y avoir un nous, un jeu et un tu dans ce nous, et que le nous continue de perdurer. Et ça, c'est pas évident. Et donc, forcément, il y a un moment où on arrête peut-être de se battre, et donc, inconsciemment ou non, on construit son naufrage. Et puis après, il y a, comment dire, il y a quelque chose pour moi de très théâtral dans, le fait, dans l'amour, de très dramatique. Et donc on construit l'amour et on construit le naufrage, et de toute façon c'est toujours une pièce de théâtre. Je sais pas comment expliquer. Moi par exemple, quand je suis amoureuse, je suis persuadée que la personne qui me plaît, elle me regarde en permanence. Mais en permanence. Mmh. Elle est pas avec moi, mais j'ai toujours son regard sur moi. Et c'est quelque chose qui peut être très galvanisant et peut-être attiser ce jeu de désir qui naît. C'est aussi quelque chose d'incroyablement... narcissique et d'oppressant, ouais. Et de très théâtral en fait. Et du coup effectivement, je sais pas pour qui les amoureux jouent une pièce de théâtre, mais les amoureux jouent toujours une pièce de théâtre pour moi.
On va revenir un peu après sur le, justement sur le théâtre et la place que ça occupe pour toi et puis dans ton roman, mais je voulais juste rebondir sur justement quand tu parlais du nous. Il y a un passage un moment sur, dans ton roman, sur le retour à l'âge adulte, et qui est mis en parallèle avec le mensonge, et qui va venir justement disloquer le nous du couple. Et est-ce que justement, c'est, tu penses que la dislocation d'une relation ou d'une cabane, elle vient du mensonge et du manque de sincérité ?
Oui, je pense. En tout cas, dans cette histoire-là, elle vient de là. Est-ce qu'elle vient toujours de là ? Oui, parce que, en fait... dès le départ, il y a quand même cette idée dans le roman que il y a toujours deux mondes qui sont en tension, donc le monde imaginaire et puis le monde réel. Et en fait, c'est le monde imaginaire est très souvent mis à mal parce que parce qu'il reflète pas complètement le monde réel, ou parce qu'il y a un mensonge qui naît de ce monde imaginaire face au monde réel. Et la confrontation des deux fait qu'il y a un moment où ça se frotte et ça explose. Typiquement, dans un des premiers chapitres, la narratrice joue dans sa chambre et elle se concentre pour jouer très très fort, pour essayer de faire abstraction du fait que dans le monde réel, la famille est en train de se battre et qu'il y a une situation de guerre. Et donc elle développe une espèce de rêve où tout va bien, parce qu'en fait, elle est dans sa cabane et tout va bien, et on n'entend rien, sauf qu'à un moment donné, en fait, le mensonge est tellement gros que ça se disloque. Et je pense que dans la cabane amoureuse, c'est la même chose. C'est qu'à un moment donné, on peut pas être là, tout va bien, je t'aime mon chéri, s'il y a par exemple, je tue et il. Et donc forcément, ce mensonge-là dans le récit, pour la narratrice, crée un espèce de décalage qui fait que là encore, son imaginaire apparaît trop comme un mensonge et comme si elle se voilait la face et détruit le récit, l'histoire qui s'était racontée, les deux amoureux. À savoir la première histoire qu'on se raconte, je te quitterai jamais, je t'aimerai toute ma vie.
C'était la deuxième partie de l'entretien enregistré avec Milly Duhayet pour la sortie de son premier roman intitulé Cabane, le 4 mars 2022, aux éditions du Nouvel Attila. Merci d'avoir suivi ce numéro, c'était Louis Desflers, prenez soin de vous, à bientôt.